Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir. La place de l'IMO.
La place de l'IMO, indépendamment évidemment de l'information internationale. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine.
Nous ne sommes pas seuls. Boris Vienne est avec nous. Bonjour Boris.
Bonjour.
Vous êtes notaire, vous êtes aussi à la tête de l'Union Nationale des Notaires Employeurs. Avec vous, on va faire un petit topo sur la crise du point de vue de votre profession. On va également parler de l'impact de cette crise pour les finances publiques, puisque vous êtes un petit peu un radar finalement, hein. Pas un colibri, on espère, un radar de la situation. Et puis, on accueille Marie. Après une semaine, vous nous avez manqué, chère Marie.
Oui, vous aussi. Non, je plaisante. Une semaine de vacances, c'est toujours plaisant. Donc
Pourquoi nous accueillons avec intérêt intellectuel un notaire dans notre émission?
Alors d'abord, parce que c'est Boris Vienne, de base. Non, et puis surtout, quand on sait qu'il est partie intégrante de ce qu'on a appelé l'Union pour le logement, une alliance pour le logement. Alliance pour le logement. Alliance qui regroupe, et on en parlait hors antenne, tout un tas de fédérations du secteur de l'immobilier et du logement au sens large, puisqu'on le disait, ça va des bailleurs sociaux aux promoteurs, en passant par les notaires, les agents immobiliers et j'en passe. Le sujet aujourd'hui de cette alliance pour le logement, c'était de peser dans le débat public et d'alerter les pouvoirs publics sur l'état de la crise du logement. J'ai envie de poser une question assez simple. On a fini le premier trimestre, on entame le deuxième. On en est où aujourd'hui de cette crise du logement? Est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce que c'est toujours très difficile?
Non, on ne va pas faire semblant. C'est toujours très difficile. Ce n'est pas parce que de temps en temps, il y a une espèce de début d'embellie que ça va mieux. Non, ça fait 18 mois maintenant, bientôt, que nous sommes bien installés dans la crise du logement et que nous n'en sortons pas.
Mais là, par exemple, typiquement, je sais que depuis le début de l'année, sur le plateau de BFM et un peu partout, on entend que les taux d'intérêt repartent un tout petit peu à la baisse, que les banques sont un peu moins regardantes sur l'apport personnel, que concrètement, on a des acheteurs qui sont un petit peu plus en capacité d'acheter qu'ils ne l'étaient en fin d'année dernière. Est-ce que ça, c'est pas de nature à donner un peu de mieux? On a même des agents immobiliers qui me disent « ça y est, il y a les visites qui reprennent ».
Oui, il y a le début, quand vous repartez de zéro, quand vous avez 3 visites, effectivement, vous avez le sentiment que tout va beaucoup mieux, et nous c'est pareil,
ouais.
Parce qu'après ça se finit par une promesse de vente et une vente, mais il faut être sérieux, la relance elle n'y est pas encore. Pourquoi? Parce que ce qui est important là-dedans, c'est l'envie d'acheter, qu'on l'a perdu, on ne la retrouve pas aujourd'hui. Alors effectivement, il y a une baisse des taux, qui est pas non plus extraordinaire, ouais. Et surtout il y a un blocage qui est important au niveau des vendeurs. Prenons un exemple. Vous achetez en 2020 un bien avec un taux à 1%. Aujourd'hui, vous vous dites en temps normal, tiens, j'arrive à 4-5 ans. On arrive plus ou moins dans le turnover. J'ai été un jeune couple, on a eu un enfant, voire un deuxième.
Pardon, vous êtes notaire, ça dépend si on a remboursé nos frais de notaire dans l'histoire.
Non, je parle de l'acquisition avec un prêt à taux 1%. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'en l'espace de 4-5 ans, vous avez amorti.
A priori.
Quoi qu'il arrive. Mm. Et aujourd'hui, vous vous dites, tiens, on a eu un enfant de plus et on voudrait acheter un bien un petit peu plus grand.
Avec une pièce en plus.
Avec une pièce en plus. La seule problématique, c'est que les prix n'ont pas bougé, les taux ont quadruplé. Et on se retrouve dans une situation où je vais quand même pas lâcher la proie pour l'ombre. Je vais quand même pas lâcher un prêt où j'étais à 1% pour acheter avec un prêt à
4%. Mais Boris, soyons honnêtes. Est-ce qu'ils sont si nombreux, ces acheteurs de 2020-2021, à être dans cette obligation de vendre? On parle assez régulièrement des fameux 3D, 5D maintenant. Enfin, je sais plus combien il y a de D, mais sur ces vendeurs pressés, décès, divorce, déménagement, dette, DPE, tout ce que vous voulez. Ils sont pas si nombreux que ça à avoir acheté en 2020-2021, au moment où les taux étaient proches d'1%, et à être dans l'obligation ou la nécessité de revendre aujourd'hui. On est quand même sur, majoritairement, des vendeurs qui ont du mal à accepter juste de réduire un tout petit peu leur plus-value, pas de renoncer à elle.
Je ne parle pas des 5, des 3 ou des 10 dés. Je parle de tous les autres, là. Ceux qui ont, à un moment donné, dans leur projet, juste
l'envie
de vendre.
L'envie d'avoir envie.
Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, cette envie, elle n'y est plus. Elle n'y est plus pour des tas de raisons. Celle dont on vient de parler en fait partie. Et donc, à partir du moment où cette envie n'y est plus d'un côté, au niveau des vendeurs, en face des acheteurs qui ne sont pas là, vous avez forcément un marché qui se rétrécit en volume, et donc forcément, vous avez toujours des prix qui vont rester quand même soutenus.
Mais comment on fait ? On tord le bras aux vendeurs ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose à leur faire comprendre aussi aux vendeurs. C'est que souvent, quand effectivement notre jeune couple qui va avoir un deuxième ou un troisième enfant veut s'agrandir, il va racheter un autre bien. Donc, il a tout intérêt à ce que le prix de bien qu'il va racheter soit aussi orienté à la baisse. Donc, à un moment donné, comment on fait ? On fait de la pédagogie ? On les force ? On leur dit quoi ?
Mais quand j'ai un prix qui passe de 1 à 4%, ça joue dans la balance. Et cette balance, quoi qu'on puisse dire, de toute façon, elle a un impact sur mon quotidien. Et si j'avais la capacité, par contre, de garder mon prêt à 1% pour pouvoir racheter...
Là, voilà la proposition.
Pour pouvoir racheter derrière, eh bien, bien évidemment que je rachèterai, je continuerai mon emprunt. Et de l'autre côté, mon acquéreur, lui, de toute façon, se retrouve dans une situation où il aurait son emprunt à 4%.
Quelle banque, Boris, banque va accepter, à l'heure actuelle, de faire prolonger, de garder un taux à 1% sur un nouveau crédit, alors que, elles empruntent pas à ce niveau-là?
Si vous faites partie de ces banques-là, écrivez-nous.
Mais vous devez faire partie de ces banques-là, au-delà. Parce que si rien ne se passe, c'est plus d'emprunts du tout, c'est plus d'offres de prêts qui sont consenties. Là, au moins, vous avez le 1% qui est conservé. Il y a toujours un petit delta, parce qu'on achète toujours un tout petit peu plus cher. Donc, le delta, eh bien, il vient à 4%, et l'acquéreur va acheter celui que je vends pour racheter. Donc, je vais avoir à un moment donné un acquéreur pour mon bien, il va acheter à 4%. Donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde s'y retrouve.
Mais non, la banque, quand même, derrière, elle perd de l'argent. Quand elle emprunte de l'argent pour financer, justement, le commun des mortels, vous et moi, si nous souhaitons acheter, elle emprunte beaucoup plus cher qu'elle va me prêter. Donc, quelque part, elle va perdre de l'argent. Pourquoi ferait-elle ça?
Elle a déjà prêté celui à 1%. Elle ne le reprête pas.
Elle va allonger, j'imagine, le crédit. Si par exemple, moi, jeune couple, j'ai déjà remboursé 10 ans et que je veux me réendetter sur 20 ans pour pouvoir racheter plus grand.
Ah ben, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus.
C'est pour ça que je...
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on devrait avoir la possibilité, je dirais, de continuer son emprunt au fur et à mesure de ses achats, sans bien évidemment bénéficier 10 ans de plus d'un prêt à 1%. Si je veux décaler mon prêt sur... quelques années de plus, il y a des calculs à faire en fonction des taux actuels.
D'accord, donc vous, votre théorie, c'est pas de dire je vais reprendre un crédit au même taux d'intérêt, je vais garder celui que j'ai en cours et tout ce qui dépasse, je le mets au tarif du marché.
C'est tout à fait ça.
Exactement, d'accord. Donc vous me dites, en gros, tant pis si les prix baissent pas, tant que les taux d'intérêt restent bas.
Tant que ces taux d'intérêt restent bas là. Parce que ça permet de créer, alors bien évidemment, à elle toute seule, cette proposition, elle n'est rien. Elle est inclue dans un tout. Et c'est ce tout qui fait qu'il peut y avoir bien évidemment une relance. Là, on parle de quelques vendeurs. Après, il faut trouver des acheteurs. Pour retrouver les acheteurs, comment on fait?
Les primo-accédants, ceux-là?
Les primo-accédants, bien évidemment. Vous avez les droits de mutation à titre onéreux, donc vous me parliez tout à l'heure.
Je veux absolument en parler.
C'est pas souvent qu'on a un acteur du monde notarial sur cette séquence immobilier. Parfois, on l'a sur les questions de fiscalité et de finance et d'éducation financière dans le reste de l'émission. Expliquez-nous, Marie et Boris, rappelez-nous le lien qu'il y a entre votre profession notaire et nos finances publiques qui ont besoin d'argent.
Les DMTO, par exemple, parce que ce qu'on appelle, je voulais juste le dire, parce que souvent, moi, j'ai des notaires qui peuvent m'écrire dès que je dis frais de notaire à l'antenne. Waouh !
Vous faites en guirlandais.
Mais oui, parce que effectivement, je suis systématiquement obligée de rappeler qu'en fait, il s'agit des DMTO, des droits de mutation à titre onéreux, et que l'essentiel de cet argent-là ne va pas dans la poche du notaire, mais des collectivités locales. C'est bien ça, a priori.
C'est tout à fait ça. Nous sommes un collecteur d'impôts gratuits pour l'État. Il faut le dire. Nous sommes un collecteur gratuit pour l'État d'impôts. Les droits de mutation, les impôts que nous collectons, grosso modo, c'est aux alentours de entre 20 et 30 milliards, tout compris. Si vous prenez les ventes d'immobilier...
20 ou 30 milliards, il nous manque précisément 10 milliards dans nos finances publiques.
Eh bien, c'est tout à fait ça. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand tout va bien, on est à 30, et quand on passe de 30 à 20, et qu'on n'a pas prévu qu'on allait passer de 30 à 20, malgré certaines alertes, dont celle de l'Alliance pour le logement, on est parfois surpris. Mais je vous rassure, nous, on n'est absolument pas surpris qu'il y ait eu cette baisse. On l'a dit haut et fort. Et quand vous avez dix fédérations, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, qui n'ont pas forcément des intérêts convergents systématiquement, et qui sont toutes d'accord pour dire « nous avons un problème, mais pas un problème, un gros problème, et nous allons tout droit dans le mur », il faut savoir à un moment donné écouter les professionnels.
Parce que là, ça se chiffre en combien ? En milliards d'euros en moins pour les collectivités locales à cause de la baisse du nombre de transactions et la légère correction des prix. Puisqu'on rappelle, les frais de notaire, les DMTO, sont fonction et du prix et du nombre, du volume de vente, évidemment, qu'on va enregistrer.
Ce qu'on appelle les frais de notaire, qu'on préfère, vous l'avez compris, appeler frais d'acquisition. ça génère quoi? Ça génère, c'est à peu près 8%. Sur ces 8%, on va faire simple, vous avez 1% qui représente la rémunération de l'étude, 7% qui représente de l'impôt sous différentes formes. Et dans ces 7%, vous avez 6% qui s'appellent les droits de mutation à titre onéreux.
Qui vont au département.
Au département, à la commune, à la région. Et qui sont de l'impôt pur lié à chaque acquisition. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième salve d'impôts. Il y a l'impôt du vendeur, et l'impôt du vendeur, ça s'appelle la plus-value. Mmh. Et si je ne vends plus, ben, il n'y a pas de plus-value. Et si j'achète pas, il n'y a pas de droit de mutation à titre onéreux. Et tout ça, ça fait quand même des sommes relativement rondelettes, parce que nous payons aussi gratuitement, pour le compte de l'État, à l'État, les plus-values. C'est-à-dire que sur le prix de cession,
reversé.
Nous prenons ce qu'il y a lieu de payer à l'État, et nous le payons directement à l'État. Mmh. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, entre ce qui ne rentre plus et ce qui ne sort plus, ce qui ne rentre plus dans le cadre de l'acheteur et ce qui ne sort plus dans le cadre du vendeur, que bien évidemment, c'est un manque considérable à gagner pour l'État et les collectivités.
Il y a eu aussi beaucoup de sujets justement sur les DMTO et sur l'idée de dire les frais de notaire, frais d'acquisition, on met tout ce que vous voulez là-dedans, que ça empêchait la mobilité justement parce que ça avait un poids un peu trop important. Est-ce que vous seriez par exemple partisan, parce que quitte à en avoir moins, autant en avoir pas du tout, et puis s'organiser pour qu'on récupère l'argent ailleurs. Est-ce que ça serait une des solutions pour relancer aussi ce marché de l'immobilier?
Et quel ailleurs?
Je ne pense pas. Ouais. Je pense pas parce qu'après, ce sont quand même nos collectivités. Et ma collectivité locale, j'y tiens. Et
j'avoue, c'est laquelle chez vous?
Tout petit village qui s'appelle Cornebarieux.
On embrasse.
Voilà, oui.
Dans quel coin?
À côté de Toulouse, banlieue toulousaine. Et effectivement, j'y tiens. Maintenant, on peut éventuellement discuter sur un laps de temps, faire une espèce de moratoire sur le montant global de cet impôt. Mais il est logique qu'à partir du moment où j'achète, qu'il y ait une partie des frais qui soient payés par l'acheteur, qui aillent dans la commune. Pourquoi? Parce que je vais vivre dans cette commune. Hein. Et globalement, je suis bien dans une commune parce qu'aussi, eh bien, elle a la capacité à bien me recevoir.
Hein. Après, il y a un fonds de péréquation, si je m'abuse. Non
chez nous?
Non, sur les frais de notaire. C'est-à-dire que sur les villes qui ont moins de transactions et donc moins de frais de notaire, parfois, je crois qu'il y a des villes qui récupèrent plus de DMTO, qui reversent à certaines qui n'ont pas assez.
Alors ça, je suis pas.
Et il me semble qu'il y a un fonds de péréquation.
Ça existe parfois, chez les notaires. Ça existe chez les notaires. Et nous avons des actes qui rapportent, vous voyez, des tout petits actes qui rapportent 90 euros. Et quand vous avez des notaires, pour des questions de maillage, qui restent dans leur territoire et faire des actes à 90 euros, c'est-à-dire des actes qui ne rapportent rien, qui coûtent à l'étude, eh bien ce sont les autres notaires qui payent pour ce notaire, pour qu'il puisse rester sur son lieu.
Du coup, ça va comment chez les notaires? Parce que c'est ça le sujet, c'est-à-dire que là, on vient de dire qu'effectivement, la crise du logement et de l'immobilier a un impact sur les finances publiques, mais elle a aussi forcément un impact sur votre activité.
Quand vous m'avez dit ça serait bien qu'on se voit tel jour, je vous ai dit oui, je n'ai pas réfléchi. Je vous ai pas dit, je vais regarder mon agenda.
Ouais.
Oui, non, bien évidemment, nous sommes impactés. Et j'irai pour aller un tout petit peu plus loin. Quelques études en 2023 qui ont été mises ou en redressement ou en liquidation judiciaire, c'est pas neutre, hein, ça n'arrive pas chez nous. Et là, en 2023, c'est arrivé. 2024, on craint qu'il y ait une démultiplication de ces redressements ou liquidations judiciaires. En termes d'embauche, les emplois sont arrêtés, et voire même, enfin du moins là, je peux vous parler au niveau des adhérents de l'UNE, des licenciements. Des licenciements, parce que de toute façon, la trésorerie a été mangée en 2023, et aujourd'hui, même si ça ne fait pas partie de notre culture que de licencier, bien évidemment, arrive le moment où on est obligé.
Faudrait faire quoi? Parce que la seule, entre guillemets, proposition dont on a parlé, c'est l'idée de faire perdurer notre fameux taux d'intérêt ultra bas qu'on a décroché en 2020-2021. Ok. Mais faut faire quoi? Parce que, à mon sens, c'est pas suffisant. Il faut faire quoi pour relancer votre profession, relancer ce secteur de l'immobilier et du logement, et puis sauver tout un tas de familles, de ménages qui sont peu mal, voire pas logés du tout. On fait quoi, là?
Pour conclure, Boris, dites-nous ce que vous diriez si vous aviez le ministre.
Alors,
les ministres.
Elle est à gauche, elle est à droite.
Non,
si j'avais le ministre du logement face à moi, je lui dirais aujourd'hui, il est plus que temps d'arrêter de croire que la solution, vous l'avez. Il est plus que temps maintenant de venir écouter les acteurs qui ont des propositions. Et quand je dis des propositions, c'est pas une proposition, c'est un ensemble de propositions. Et nous restons persuadés que c'est cet ensemble de propositions qui est de toute façon le moteur pour faire relancer la crise du logement. Et si vous me permettrez, alors je m'adresse directement au président de la République, pour autre chose, lorsqu'il y avait eu la fameuse commission Attali, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remontait à quelques 2007. Années. Il y a quelques années, on dira. Eh bien, notre président de la République était rapporteur. Et la première réflexion qui avait été faite lors de la conférence de presse par son président, qui était Monsieur Attali, avait été de dire « soit vous prenez tout, soit vous ne prenez rien ». Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons un ensemble de propositions à faire. Soit vous prenez tout, soit vous ne prenez rien. Mais si vous ne prenez pas tout, vous en subirez les conséquences. Voilà.
Le message est passé.
Voilà, cette commission Attali qui date effectivement de 2007. Merci Boris Vienne d'avoir pris et de nous avoir donné l'état d'esprit, l'état de travail de votre profession, ce que signifie aussi cette crise économique pour les notaires et puis pour nos finances publiques, puisque vous nous avez rappelé le lien entre les frais d'acquisition et peut-être le déficit que l'on peut déplorer actuellement. On salue tous nos auditeurs de Haute-Garonne, puisque vous nous parliez de Corne-Barrieux tout à l'heure, et tous nos auditeurs toulousains et autour. Je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme toutes les autres d'ici quelques secondes. L'immobilier, on s'en occupe tous les jours dans Tout pour investir avec Marie Carderoy et toute notre équipe et nos invités, experts de toutes les professions.